Ô Dieu notre Père, nous voulons commencer par nous humilier devant toi. Car tu ne résistes qu'aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux autres. Nous voulons nous humilier de toutes les pensées que nous avons pu avoir, de toutes les paroles que nous avons pu dire, et qui ne reflétaient pas l'état de ton cœur. Nous voulons te demander aussi de nous pardonner de nos actions répréhensibles. Notre cœur est sensible à ta grâce, et nous te remercions de nous faire grâce. Et nous te demandons de nous donner cette grâce pour parler, et aussi la grâce pour écouter, de nous accorder de pouvoir te servir par la force que tu fournis, et d'éveiller l'attention de nos cœurs à ta parole, que nous puissions la recevoir et que nous puissions la communiquer avec ta douceur, dans ton intonation, mais aussi avec l'autorité de ton discours. Et que personne ici ne puisse quitter ces lieux comme il y est entré, mais pouvant dire dans son cœur qu'il t'a entendu et qu'il t'a rencontré. Et même qu'il t'a vu, car tu sais apparaître à ceux qui ont des yeux pour voir, tu sais parler à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Nous sommes Jean dans l'île de Patmos, nous puissions nous retourner pour voir la voix de ta, et c'est la tienne. Seigneur de gloire. Amen. Bien-aimés, amis connus ou inconnus, je sais que vous êtes tous des bien-aimés. Bien-aimés de mon Père des cieux, et bien-aimés aussi de nos cœurs. Les organisateurs de ce séminaire d'enseignement biblique m'ont donc demandé de traiter, comme mon frère vous l'a dit, en trois soirées, la venue de Jésus, ou plus exactement, le retour de Jésus-Christ. Je sais d'avance que nous ne pourrons qu'effleurer ces vérités si précieuses qui recouvrent le texte que les responsables du groupe biblique de la rive sud ont choisi pour annoncer ces rencontres. J'espère cependant pouvoir vraiment répondre par la parole de Dieu et par son esprit aux trois questions que les auteurs de l'invitation ont mentionnées dans l'annonce de ces réunions. La première, quelle influence la venue de Jésus a-t-elle dans notre vie? La seconde, l'attendons-nous vraiment? Et la troisième, qu'est-ce que sa venue représente pour l'Église, pour Israël et pour le monde, et j'ajouterai pour la création tout entière, cette création qui se pire, cette création qui elle aussi est en travail et se réjouit de ce jour où elle sera libérée du joug de la corruption auquel elle a été soumise, non de sa volonté, mais par le péché de l'homme. Mais revenons tout de suite au titre annonçant ce programme. Oui, je viens bientôt. Et alors, avant d'aller plus loin, vous me permettrez, selon une sainte habitude et une règle essentielle de lire le contexte dans lequel se trouve cette parole. Alors, vous ouvrez vos Bibles dans le chapitre 22 de l'Apocalypse. C'est donc dans les premières pages de la Bible. J'espère que personne ici n'a cette pensée. Vous ouvrez à la dernière page et nous lisons depuis le verset 6. Et il me dit, c'est l'ange qui parle à l'apôtre Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Vous pourriez déjà vous arrêter sur ces mots. Hein. C'est ce qu'on adore au Québec. On adore tout. Ce mot, vous ne devez l'employer que pour Dieu. Bannissez le mot adorer pour toutes les autres choses. Vous pouvez aimer certaines choses, mais un seul Dieu, tu adoreras. Adore Dieu. C'est ce qu'un ange dit à un homme qui veut se prosterner devant lui. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, comme avait dû le faire Daniel. Et les choses étaient cachées, mais maintenant, elles sont révélées. Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et c'est bien là, la prière profonde de nos cœurs. Nous venons d'entendre ces paroles et nous demandons à Dieu encore qu'il nous sanctifie par ces paroles et qu'elles puissent trouver l'accès de nos cœurs. Oui, je viens bientôt. Mes bien-aimés, il s'agit là d'une parole de Jésus glorifié. Donc, d'un texte qui termine, comme nous l'avons lu, la Bible, le livre de l'Apocalypse, cette révélation du Seigneur que l'apôtre Jean a reçue lorsqu'il était dans cette petite île de Patmos, dans la mer Égée, une île que j'ai souvent survolée en allant au Proche-Orient pour y accomplir les missions que le Seigneur attendait de moi. On passe sur cette île de Patmos. Et on ne peut pas ne pas penser à Jean quand on survole l'île de Patmos. Dès le premier chapitre du dernier livre de la Bible, cette annonce de la venue du Seigneur est soulignée. Vous ouvrez votre Bible au chapitre premier, et il est dit, voici, il vient. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra. Verset 7. Puis, dans l'histoire de cette église, cela est répété à l'église de Pergame, une église très mondaine. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Puis, vous avez une troisième parole qui est adressée à l'église de Philadelphie, qui a peu de force, mais qui a gardé la parole de la patience du Seigneur. Et il lui est dit, je viens bientôt. Verset 11 du chapitre 3. Et on entend cette annonce juste avant la bataille d'Armageddon, cette grande bataille dont parle l'Apocalypse, où toutes les nations seront rassemblées dans cette grande plaine de Megiddo, chapitre 16 de l'Apocalypse, verset 15e, il est dit ceci, « Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. » Là aussi, il est question de la venue prochaine du Seigneur. Enfin, à trois reprises dans ce chapitre dont nous venons de lire quelques versets, au verset 7e, voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Puis au verset 12e, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon que sera son œuvre. Et une dernière fois, c'est le thème, le titre qui a été donné. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. C'est le verset 20e qui annonce donc les messages qui ont été demandés. Alors, oui, je viens bientôt, ça fait donc 1, 2, 3, 4 mots. Et selon une habitude qui m'est chère et que j'ai trouvée utile, Je désire toujours que mes auditeurs comprennent bien le sens de chaque mot qui est employé, car sinon le message est perdu. Et Jésus a parlé un langage simple et il s'est donné vraiment la peine d'expliquer ou d'expliciter, même dans le particulier, à ses disciples le sens de certaines choses qu'ils n'avaient pas comprises. Car si vous ne comprenez pas tout ce soir, ne vous inquiétez pas. Les disciples ont eu beaucoup de peine à comprendre. Il est dit qu'ils étaient des gens longs de cœur à croire et à comprendre toutes les choses que le Seigneur leur disait. Et si vous le voulez aussi, souvenez-vous que Marie n'a pas tout compris. Il y a bien des choses qu'elle ne comprenait pas, elle, la mère de notre Seigneur. Mais cependant, même si elle ne les comprenait pas, elle les gardait où? Dans son cœur. Elle les repassait dans son cœur. C'est comme ça que l'on fait des progrès. Alors, je voudrais que vous ne soyez pas découragés, mais que vous puissiez comprendre les paroles que le Seigneur a mis dans nos cœurs quand nous nous tenions devant sa face. Alors, il y a d'abord la particule affirmative « oui » qui précède le « je viens bientôt ». C'est très remarquable, hein? « Oui ». Je viens bientôt. Et ce « oui », si vous êtes un peu passionné par la Bible et par les Écritures, vous verrez que toute la Bible emploie ce mot et souligne toujours, par ce « oui », que la chose dite est vraiment sûre, que cette chose est certaine, qu'il n'existe aucun doute à ce sujet. Oui, c'est une affirmation catégorique. On peut dire que c'est une affirmation divine. Ainsi, je vous cite Deutéronome, chapitre 33, verset 3. Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais j'aimerais bien qu'on ait un petit peu un contact, hein, que vous me disiez si vous êtes d'accord. Dans le chapitre 33, du Deutéronome, il y a un verset qui m'a été en grande bénédiction. C'est une des paroles de Moïse, homme de Dieu, qui a béni les enfants d'Israël avant sa mort. Je ne sais pas quand elle viendra, la mienne, mais que vous soyez bénis, non pas de la bénédiction d'un homme, mais de la bénédiction de Dieu, si c'était la dernière fois que je vous parle. Il dit, l'Éternel est venu de Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir. Il a resplendi de la montagne de Paran. Ce sont des montagnes que j'ai vues de mes yeux. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la loi. Puis il est dit, verset 3, oui, il aime les peuples. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Dieu aime les peuples. Oui, Dieu vous aime. Quelle que soit votre situation, quelles que soient vos circonstances, oui, Dieu vous aime. Est-ce que vous pouvez dire cela ce soir? Oui, Dieu m'aime. Je le crois. Il n'y a pas de doute sur cette question. Je ne comprends pas ces voies, je ne sais pas pourquoi je passe par telle épreuve, mais je sais une chose, je ne mets pas en doute cette chose, Dieu m'aime. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans sa main, ils se sont tenus à tes pieds, ou ils se tiennent à tes pieds. Vous êtes des saints qui ne sont pas dans des niches, mais vous êtes des saints qui se trouvent dans sa main. Il vous appelle déjà saints, parce qu'il a fait une œuvre qui vous sanctifie, et il vous a dans sa main. Vous n'êtes pas dans la main des circonstances, vous êtes dans la main du Dieu qui dirige les circonstances, qui les permet pour notre éducation, mais qui nous aide. ils ont reçu tes paroles. Oh, je le demande, je ne suis qu'une prière, que vous puissiez ce soir recevoir ces paroles. Oui, ils ont reçu tes paroles. C'est donc Deutéronome, un chapitre 33e. C'est donc au début de l'écriture. J'en passe, hein. Mais nous arrivons au milieu de l'écriture. Quel est le milieu des écritures? C'est les psaumes. Alors, prenons simplement, il y en aurait d'autres, mais j'en prends un que vous aimez beaucoup, que vous savez par cœur, peut-être même dès votre enfance, et en tout cas, vous chantez des cantiques qui rappellent ces paroles. C'est le psaume 23, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront quelquefois, tous les jours de ma vie. Vous chantez cela, et vous chantez ça tout votre cœur, puis après, vous êtes par terre. Oui, le bonheur, quelle bande de menteurs nous sommes. Nous chantons cela, et puis après, nous nous plaignons. Pas du tout une vie de bonheur que nous manifestons. Mais on peut même être heureux dans les larmes. Oui, le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et c'est beau. Oui. Alors souvenez-vous de ce oui, hein, du psaume 23, de ce oui qui est au milieu de la Bible, comme on en a trouvé un oui au début de l'Écriture. Puis, quand nous arrivons dans les évangiles, il fait bon entendre le Seigneur Jésus exprimer lui-même aussi ce oui. Déjà dans les évangiles, quand il voit les disciples qu'il envoyait prêcher revenir dans la joie en disant « Nous avons pu faire des miracles, nous avons chassé des démons, nous avons opéré des guérisons », alors le Seigneur se réjouit. Et il dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à qui? Vous connaissez la Bible quand même. À des petits enfants. Alors, c'était pas des petits enfants seulement, c'était les disciples. Mais ils avaient eu un cœur d'enfant, ils avaient cru leur Seigneur, ils avaient obéi à ce Seigneur qui les envoyait pour annoncer l'évangile. Et ils avaient cru, ils avaient eu un cœur d'enfant. Et ayez ce soir ce cœur d'enfant, pourquoi? Et alors Jésus ajoute, oui, Père, oh que j'aime cette parole, oui, Père, c'est ainsi que tu l'as voulu. C'est ce que tu as trouvé bon à tes yeux. Oui. Mais tu l'as voulu ainsi. Alors, vous trouvez ce oui, donc, dans le chapitre 11 de Matthieu, au verset 26, ou la même expression dans le chapitre 10 de Luc, au verset 21. Le oui du Seigneur. Oui, Père. Tu l'as trouvé bon ainsi de révéler ces choses aux petits-enfants. Et puis, alors vous avez cet Apocalypse 22, verset 20, où Jésus lui-même dit encore, oui, je viens bientôt. Alors, est-ce que c'est sûr qu'il reviendra? Ou bien est-ce que vous serez tout de suite dans le doute parce que vous entendrez une autre doctrine qui, parce qu'elle pullule les doctrines au sujet du retour du Seigneur, qu'il faut le prendre symboliquement, mais qui ne revient pas bientôt, etc. Eh bien, vous rappellerez de ce oui. Et l'apôtre Paul, j'aime encore vous citer 2 Corinthiens 1, verset 17e, parce que je ne veux pas que vous ayez mes idées, je veux que vous ayez la parole de Dieu dans votre cœur. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas avec moi. Ça a peu d'importance d'être d'accord avec moi. Mais c'est avec la parole de Dieu que vous ne serez pas d'accord. Alors, 2 Corinthiens 1, verset 17, Paul souligne qu'il n'y a pas eu en lui le oui et le non. Et il ajoute, aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole qui vous a été adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. C'est parce qu'on est sûr du oui, de toutes les promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont oui en Christ. Il est toujours exaucé. Alors, nous pouvons dire amen à notre tour, qui veut dire ainsi soit-il. C'est notre oui à nous, l'amen. Mais les paroles du Seigneur sont oui. C'est pas peut-être. Tout est clair, tout est certitude dans le Seigneur. Donc, 2 Corinthiens 1, verset 17e. Et j'aurais pu parler aussi de ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne, nous montrant que si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas de parole. Que votre oui, que votre non, soit non. Ce qui vient de plus vient du mal. C'est clair. Un chrétien, il devrait avoir une parole, le oui du Seigneur. Alors, après ce oui divin, il y a le pronom personnel je. Oui, je. C'est pas beau de dire je toujours pour soi, je. Non, mais là, ce je désigne qui? Le Seigneur Jésus lui-même. C'est donc une personne. Et quelle personne? On a parlé qu'il était admirable, mais est-ce que c'est vrai? Puis vient le verbe venir, qui est employé au présent. Je viens. Dans son sens spatial, c'est un mot qui marque un déplacement, qui aboutit ou est prêt d'aboutir au lieu où on se trouve. Ça, c'est le petit Robert qui vous donne cette définition du mot « venir ». Dans son sens spatial, c'est un déplacement qui aboutit ou est prêt d'aboutir au lieu où l'on se trouve. Il y a déplacement. Enfin, il y a le mot « bientôt », qui est le quatrième, qui signifie « dans un peu de temps » ou dans un proche futur, ou encore incessamment, prochainement, promptement, rapidement, d'un moment à l'autre. Voilà ce que veut dire vraiment bientôt. Oui, je viens bientôt. C'est la parole de Jésus glorifié. C'est donc la voix même de Jésus que vous entendez, Apocalypse 1, verset 10. Il entend, l'apôtre Jean, une voix derrière lui en cette journée dominicale, et il est dit qu'il se retourna pour voir. C'est un peu étonnant. Et il veut voir la voix. Et puis qu'est-ce qu'il voit? Personne. Voyez-vous, la voix, elle est toujours rattachée à une personne. Et il n'entend pas seulement une voix, mais quand il se retourne, qu'est-ce qu'il voit? La personne qui a parlé. Et là, c'est une assurance certaine. Une assurance véritable. Alors, on peut se poser une question. Quel effet, cette parole, prononcée à la fin du premier siècle, parce que ça se passait à la fin du premier siècle de l'ère chrétienne, quel effet cette parole, oui, je viens bientôt, suscite-t-elle dans vos cœurs après 1900 ans et 13 ans avant l'an 2000? Quand vous entendez cette parole et que vous vous y arrêtez, oui, je viens bientôt. Si vous vous dites, mais quand est-ce qu'il a dit ça? Il y a 1900 ans. Et ces gens, hein, qui nous rapportent cette parole, qui dit être du Christ sorcier. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez. Je le sais. Alors, êtes-vous en communion en cette soirée du 22 mai 1987 avec l'Esprit, le Saint-Esprit, et l'Épouse, qui est l'Église, composée de tous les croyants à quelques dénominations qui s'appartiennent, c'est Dieu qui connaît ceux qui lui appartiennent, l'Esprit et l'Épouse disent bien. Est-ce que ce soir, vous êtes en communion avec l'Esprit et avec l'Épouse, avec l'Église tout entière, qui est l'Église du Seigneur, parce qu'il n'y en a qu'une? Est-ce que vous êtes en communion et que vous pouvez dire vraiment bien? Vous qui entendez, parce qu'il est dit que celui qui entend dit, bien, ce soir, est-ce qu'il y en a ici? Puis-je vous entendez, j'espère. Et je parle trop fort. Alors, je ne veux pas vous attendre. Non. Mais, vous qui entendez, que celui qui entend dise, est-ce qu'il y a une réponse dans vos cœurs? Est-ce que vous pouvez dire, viens? Mais pour cela, pour pouvoir dire viens, il faudrait que vous soyez déjà venu à la source des eaux de la vie pour y puiser gratuitement ce dont vos cœurs ont tellement besoin. Eh bien, s'il y en avait ce soir parmi vous qui ne sont pas encore allés, bien le Seigneur le dit, venez, que celui qui veut vienne, et qu'il prennent gratuitement de l'eau de la vie. Il n'est pas dit que celui qui peut, mais que celui qui veut. Alors, c'est pour vous, ce soir, c'est le verset 17e, que celui qui veut prenne gratuitement de l'eau de la vie. Alors après, quand vous aurez bu de cette eau, vous pourrez dire vraiment, viens, pas parce que c'est une doctrine qu'on vous a enseignée, mais parce que c'est le cri de votre cœur, et vous êtes devenu comme le cerf qui brame après les courants d'eau. Vous avez bu de cette eau, et vous voulez maintenant que le Seigneur vienne, et vous le dites, dans la communion de l'Esprit, qui est attristé d'être sur la terre. Oui, il est à l'œuvre dans les cœurs, mais le Saint-Esprit qui est attristé dans le cœur de tant de croyants qui ne marchent pas comme il devrait. Le Saint-Esprit qui est attristé parce qu'il voit dans ce monde, par cette incrédulité et qui se propage partout, le Saint-Esprit soupire après son départ, parce que le Saint-Esprit partira. Annoncer quoi? Son retour. C'est clair. Alors, une question se pose, puisque j'ai dit, on va parler à votre intelligence. Votre intelligence réagit, elle dit, mais il a dit bientôt, mais est-ce que je serais trompé? Alors, je laisse Jésus répondre. Qu'est-ce qu'il a dit? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Elles sont toujours valables, elles sont toujours actuelles, les paroles du Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est Matthieu 24, verset 35, pour ceux qui aiment reprendre leur Bible à la maison et repasser ces choses dans leur cœur, à l'exemple de notre bien-aimée Marie, la mère de nos Seigneurs. Alors, on se pose aussi cette question, mais les apôtres, qui ont attendu le Seigneur, comme on le sait, au cours de leur vie, ont-ils eu tort dans leur enseignement aussi concernant le retour du Christ? Est-ce qu'on peut prendre vraiment l'enseignement des apôtres sur le retour du Christ? Est-ce qu'on peut le prendre au sérieux? Dans notre génération, qui a vu des hommes marcher sur la lune, ils auraient bien dû apprendre à marcher sur la terre, hein, d'abord. On ne sait pas même marcher sur la terre si on nous refuse d'aller marcher sur la lune. Puis on ne sait pas marcher comme un Christ. Aller sur la lune, marcher, oui, enfin, on se glorifie. Et qu'est-ce qu'on doit dire des apôtres et de leur enseignement au sujet du retour du Seigneur et comme ils en parlent, comme ils attendent ce Seigneur dans leur vie, qui voilà qui n'est pas venu. Eh bien, ils nous ont montré par leur vie comment nous devions attendre Jésus. Ils ont été des exemples. Parce que l'enseignement de Jésus ne permet pas de l'attendre pour demain. C'est, vous ne savez, ni le jour, ni l'heure. Et son enseignement, nous l'avons fait dans la fin de semaine biblique de travail, ce que je le dis à tous, veillez. Vous devez veiller aussi bien de nuit que de jour, ce qui ne vous empêchera pas de dormir. Pas parce qu'on peut s'endormir dans la veille. Nous nous sommes remis entre les mains du Seigneur en disant, peut-être pendant mon sommeil, tu vas me prendre. Et c'est pas de la mort, je parle. Hein. C'est pas de la mort. C'est de sa venue, c'est de son retour, car nous aurons l'occasion de montrer que son retour n'est pas comme plusieurs le pensent, le moment de la mort. Alors le Seigneur revient, puis il prend l'âme auprès de lui. C'est pas du tout ça le retour du Seigneur. Bien sûr que le Seigneur est là pour les mourants, pour les assister, et nous allons auprès de Christ. Mais ce n'est pas cela le retour du Seigneur que nous avons en vue selon les Écritures. Et je dois dire aussi que si l'enlèvement, si cet événement du retour du Christ n'a pas eu lieu au cours de l'existence des apôtres, est-ce qu'ils sont morts dans le dépit en disant nous nous sommes trompés? Aucun d'eux. Ils sont morts dans la joie. Ils sont morts dans la certitude du retour du Seigneur. Ils se sont endormis dans la certitude qu'ils ressusciteraient. Et qu'un demi-clin d'œil avant les vivants, ils seraient encore là au retour du Seigneur, ils verraient le Seigneur, selon ce que nous allons voir dans l'Écriture. Donc, ils n'ont pas été déçus d'avoir attendu le Seigneur quotidiennement. Ça a eu une influence telle sur leur vie qu'ils ont vraiment été des apôtres. Et nous aussi, nous devrions être de vrais apôtres, c'est-à-dire des envoyés, sanctifiés, parce que justement, nous avons une vérité qui nous est chère, et qui n'est pas un événement futur, mais qui est le Seigneur, que nous aimons, qui nous a promis son retour, et que nous attendons, c'est le fiancé, attend son fiancé, et le jour des noces, où il sera confié. Qu'il s'agisse de Pierre, pour les m'allonger, qu'il s'agisse de Paul, qu'il s'agisse de Jean, de Jules, de Jacques, je pourrais vous citer plusieurs passages qui vous montrent que ces hommes, quand ils ont quitté la terre, ils étaient dans la paix du Seigneur. Alors, pour répondre à la première question du programme qui a été annoncé à ce séminaire, quelle influence la venue de Jésus a-t-elle dans votre vie? Il faut d'abord savoir si vous croyez au retour du Christ. Si vous n'y croyez pas, cette vérité ne peut pas avoir une influence sur vous. Est-ce que vous croyez au retour du Christ? Oui ou non? Je veux croire que vous y croyez. Et pour parler du retour du Christ, il faut donc d'abord avoir cru à sa première venue. Est-ce que vous croyez qu'il est venu une première fois? Oui, hein, c'était Jean de Noël. Enfin, à Noël, alors on rappelle qu'il est venu une première fois, même le monde. Noël, c'est la venue du Seigneur, c'est les bergers dans les champs, et puis c'est les mages, tout ce que vous voulez. Alors, il est venu une première fois. Et nous sommes dans l'ère chrétienne, même les athées, quand ils signent leur courrier, ils mettent 1987. Ils reconnaissent la venue historique. Le Christ est venu, il y a eu un homme appelé Jésus.
Et alors, je voudrais vous dire, pour vous encourager, quand est-ce que c'est venu d'un libérateur a été annoncé dans le monde pour la première fois? C'est où? Au jardin des œufs, dans la Genèse. Au moment de la chute, Genèse 3, verset 15, il est parlé quand le Seigneur maudit Satan et lui dit qu'il y aurait une inimitié entre lui et la femme, entre ce moment et sa postérité, et que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais que le serpent réussirait à blesser la postérité de la femme au talon. Qui était cette postérité? C'était le fils de Marie, le fils d'une femme. Le fils d'une femme. Il est né de femme. Et nous, nous sommes la postérité de l'homme. Mais Jésus, il est la postérité de la femme. C'est pas la femme qui a écrasé la tête du serpent, c'est sa postérité. C'est le Seigneur, mais qui était blessé au talon, c'est-à-dire qui était atteint dans la partie la plus basse de son être, son humanité. C'est par le talon que nous touchons à la terre. Il était Dieu, mais il était homme, et il a été atteint seulement dans son humanité. La blessure au talon était annoncée, et c'était la croix. Mais cette promesse a été faite 4000 ans avant la venue du Messie, de Jésus. 4000 ans ont passé. Alors qu'il y croyait encore. Mais pourtant, au cours des siècles, cette venue d'un libérateur avait été confirmée d'abord à Enoch, un homme, le seul, dans la Genèse, qui n'a pas passé par la mort et qui a connu l'enlèvement parce qu'il avait plu à Dieu, parce qu'il a marché dans la foi, disait Hébreux 11, et lui, il avait eu la révélation de la venue du Seigneur, comme nous le lisons dans l'épître de Jude. Et dans le chapitre 5 de la Genèse, vous avez cette histoire d'Enoch. Puis après Enoch, cette postérité a été promise à Abraham, chapitre 12 de la Genèse. Je répète simplement ces choses pour vous les rappeler, pour qu'il y ait une base biblique à ce que nous disons. À Abraham, il lui est promis une postérité comme il a 75 ans. Et il lui dit qu'il deviendrait un peuple, une nation. Et il lui est promis une terre. Mais le pauvre Abraham, il a dû avoir beaucoup de patience. Hein, parce qu'après cette promesse, il a dû attendre jusqu'à l'âge de 100 ans. Quand il n'y avait plus moyen d'avoir d'enfants, comme le dit. Et que sa femme en riait quand elle entendait Dieu en parler. Eh bien, c'est alors que le Seigneur allait agir. Quand on croit que c'est fini, que le Seigneur ne peut plus agir, c'est là. Et c'est pourquoi le retour du Seigneur aura un effet de surprise, même pour les chrétiens, même pour ceux qui l'attendent. Et je vous invite à veiller, car ce sera une surprise. Il vient rapidement, il vient d'un moment à l'autre, et il vient au moment où l'on ne s'y attend. C'est ce que nous révèle l'Écriture. Eh bien, vous pouvez prendre la vie d'Abraham, le père de la foi. Il a eu patience, il est dit qu'il a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice. Je pourrais vous dire que ça a été donné aussi à Moïse, de savoir qu'il célèbre un prophète comme lui. Ça a été révélé à David, le roi d'Israël, Deutéronome 18, 18, de Samuel 7, 28. Ça a été révélé au prophète. Et là, toujours plus de détails, ce serait une vierge qui concevrait et qui enfanterait Ésaïe, chapitre 7. Puis, à Miché, il était même dit dans quelle ville il naîtrait Miché, chapitre 5, ce serait Bethléem. Et quand on arrive à Malachie, il est annoncé que le messager du Seigneur allait. Cette voix dont avait parlé déjà Ésaïe, qui criait dans le désert, et qui serait celle de qui? De Jean-Baptiste. C'est bien Jean-Baptiste qui l'a dit. Oui, Jean-Baptiste. Allez venir. Et alors, vous êtes dans l'évangile, c'est l'annonciation, c'est la visitation. avec Élisabeth, c'est la présentation au temple avec le vieux Siméon. Ils sont un petit groupe de gens qui croient encore à cette ancienne prophétie, qu'il y aura un libérateur, et pourtant tout allait mal entre elles. Les Romains occupaient le territoire, et les Juifs étaient asservis après leur grande délivrance de Babylone. Ils étaient de nouveau dans la servitude, et c'est à ce moment-là, à ce moment le plus critique, que le Seigneur naît. Mais comme on n'a pas vraiment repassé dans son cœur toutes les Écritures, sinon quelques personnes, comme un Siméon, comme une Marie, qui elle, en entendant l'ange, peut suivre ce que l'ange lui dit et savoir que ce n'est pas le tentateur, parce que Ève aussi a été visitée par un ange, mais c'était l'ange de lumière, c'était Satan, et qui l'a induit en erreur. Tandis que Marie, elle était sur ses gardes, et quand elle a écouté l'ange, elle n'a pas tout compris. Mais, en finale, elle dit, je vais faire ceci, non, qu'il me soit fait, selon sa parole. C'est la grande différence entre Ève et Marie, comme j'essaye de le montrer dans le petit livre. Je ne fais pas de la réclame pour moi, mais les leçons de Marie, mère de Jésus, il y a de grandes leçons. Et alors, cette Marie qui a éduqué le Seigneur, elle a dû aussi attendre combien de temps? 30 années. Elle pouvait se désespérer. Elle avait des promesses, mais est-ce que cela va se réaliser? 30 années, c'était au fond l'espace d'une génération. Elle repassait ces choses en boucle. Puis après, il y a eu ce ministère de Jésus, ses paroles, ses guérisons. Il montrait le visage de Dieu au monde, mais on ne l'a pas reconnu. Et ça a été son arrestation, sa crucifixion. Mais aussi sa résurrection. Vous y croyez à la résurrection du Christ? Nous sommes en Pâques et l'Ascension. Alors où est-il? Il est remonté. Nous sommes dans ces 40 jours entre Pâques et l'Ascension. Il a été enlevé. Mais il avait dit à ses disciples, chapitre 14 de Jean, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi. Est-ce que vous y croyez aussi en lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, je viens bientôt. Il a dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en lui. Oui, je viens bientôt. Et je vais vous préparer une place. On sait ce qu'il fait. Et je reviendrai. S'il en était autrement, je vous l'aurais. Alors, nous refusons cette interprétation symbolique. On nous dit, oui, le retour du Seigneur, c'est un symbole, mais il ne faut pas presser les textes, ça ne se passera pas de cette manière-là. Mes amis, toutes les prophéties concernant la première venue du Seigneur sont si claires, si nettes dans l'Ancien Testament, qu'on pourrait écrire une vie de Jésus simplement avec l'Ancien Testament. En reprenant tous les textes de l'Ancien Testament, annonçant sa première venue dans l'humiliation, on pourrait écrire une vie de Jésus. Alors, si littéralement les prophéties concernant la première venue de Jésus se sont accomplies, de quel droit pouvons-nous dire que les prophéties concernant son retour, parce qu'il a parlé de son retour, ne seraient que des mots symboliques? Nous croyons à son retour. Nous y croyons de tout notre cœur et c'est même notre bienheureuse espérance. Nous ne sommes pas sans espérance. Et je dirais que, au fond, toutes les églises qui ont un credo admettent le retour de Christ. C'est vrai ou c'est faux? Je ne sais pas quelle église vous fréquentez, mais vous vous souvenez de votre credo autrefois? C'est un résumé des grandes vérités bibliques, ça finit, il reviendra pour juger les vivants et les morts, donc il n'y aura pas des vivants. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Dans toutes les églises, on récite ce credo, que ce soit l'église catholique, que ce soit les églises orthodoxes ou les églises protestantes. Et chaque jour, à l'Eucharistie, et plusieurs fois par jour, pour ceux qui communient plusieurs fois, eh bien, à l'Eucharistie, et ou à la Sainte Cène, comme chez les protestants, qu'est-ce qu'on dit, ou comme chez les orthodoxes? On fait cela jusqu'à ce qu'il prier tous les jours jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, on annonce que le Seigneur doit revenir et que l'Eucharistie, appelée la Eucharistie ou appelée la Sainte Cène, repas du Seigneur, on dit toujours jusqu'à ce qu'il vienne. On emploie exactement les mêmes mots. Et puis, dans les enterrements, on ne peut pas s'empêcher de parler de la résurrection qui aura lieu au retour du Seigneur. Et puis dans nos cantiques, surtout parmi les évangélistes, on aime à chanter les cantiques du retour du Seigneur. Mais alors, est-ce qu'on l'attend? Nous partons là dans les nuages avec nos cantiques, nous exaltons, nous répétons plusieurs fois les mêmes cantiques. Et puis voilà, voilà. Je disais l'autre jour, on va très haut, et tout à coup, on se désintègre. On tombe sans parachute. Mais pourtant, c'était tellement beau, c'est quand cette belle musique, dont c'est les modèles. Alors, mais pratiquement, qu'est-ce que je dois dire pour terminer? Bien un peu attendre le Seigneur. Et la raison? Diminution de l'amour. On n'aime plus le Seigneur, comme on le prédit, comme une personne. Et quand il y a diminution de l'amour, il y a rareté de la vraie foi. Que Jésus a dit, parce que l'amour, parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. Et puis, il nous a dit aussi, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? La foi, elle n'est à distance que par l'amour. Quand l'amour baisse, eh bien la foi devient de plus en plus rare. Cette foi qui est une obéissance. Cette foi qui vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu, Romains 10, verset 17, et puis c'est le déclin aussi de l'espérance, comme le dit hier. Où est la promesse de sa venue? Depuis le temps qu'on nous dit qu'il reviendra, qu'il est parvenu. Alors ce soir, je voudrais vous laisser un texte à méditer, parce que j'aime mieux que ce soit la parole qui vous parle encore, dans le chapitre 10 des Hébreux, et j'espère que vous le relirez. Il est dit au chapitre 10 de l'Épître des Hébreux, des paroles qui sont tellement belles. Verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de patience, de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Pourquoi n'est-il pas encore revenu? C'est parce qu'il veut que notre foi soit manifestée. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alors je comprends qu'il y a tellement de gens qui sont malheureux. Parce que quand Dieu prend son plaisir en nous, on a la foi. On est heureux. Dans notre conscience, il n'est plus troublé. On a la foi. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour le se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Eh bien, j'espère que vous faites cela, et demain, Dieu voulant, nous répondrons alors à ces questions, nous développerons le fait de son retour, l'importance de ce retour dans les Écritures, pour le croyant, pour l'Église, pour Israël et pour le monde. Nous parlerons aussi comment s'effectuera ce retour, le but de ce retour, les résultats et l'époque de la seconde venue du Christ. Ce n'est pas un simple exposé doctrinal ou dogmatique que je vous aurai dans les lectures suivantes. Nous viserons à souligner les effets pratiques que ces vérités doivent avoir sur nos vies. Alors, je vous donne un conseil, dernier. Dès ce soir, posez-vous cette question. Si Jésus revenait cette année, qu'est-ce qui se passerait? Au lieu que ce soit simplement l'année de Marie, c'est l'année de Jésus. Si c'était l'année de Jésus. Et
je vous pose encore une question.
Si Jésus revient ce soir, pas cette année, il nous donne encore du temps. Mais si Jésus revenait cette semaine, quelle serait cette semaine? Si Jésus revenait cette semaine, quel souci vous serait en l'air? Mais si je vous dis que Jésus revenait demain, vous n'allez pas plus loin? Parce qu'Apocalypse, il y a une année. Un mois, un jour, c'est dit textuellement. Alors, si nous ne savons ni le jour ni l'heure, ce jour et cette heure existent et sont connus du Père. Alors, pouvez-vous dire, avant de vous endormir, avec le Père et avec l'Époux, avec l'Esprit, avec l'Épouse qui l'attend, qui est, pouvez-vous dire Amen? Seigneur Jésus, c'est le souhait de tout votre cœur. Alors, ce retour sera pour l'Église l'étoile du matin, comme nous l'avons lu, pour Israël, le rejeton et la racine de David, et puis pour le monde en et le jugement pour les méchants, mais aussi le soleil de Jésus qui apportera la guérison que l'eau n'arrivera pas à le lever, le soleil de Jésus. Mais d'abord, l'étoile du matin, le rejeton de la postérité de David, pour Israël, il connaîtra sa délivrance par lui et pour le monde. Je m'excuse, j'essaie de dépasser mon temps. Ça fait rien. Tant pis si vous êtes fatigué, vous avez la nuit pour vous reposer. Mais je voudrais encore que vous ne jugiez pas et que vous ne pensiez pas que c'est une doctrine sectaire que nous allons vous annoncer. Que j'ai simplement les textes qui disent ça, que j'ai une voix. Dis-nous! Vous allez dire, on va venir très tard. 18 mois avant sa mort, à Pâques 1957, moi je l'ai vu en 1939, c'est pas farouche, mais en 1957, 18 mois avant de mourir, après avoir lancé son message de Pâques à l'humanité, il le terminait par cette prière. Vous voyez encore. Venez, Seigneur Jésus. L'humanité n'a pas la force d'écarter l'obstacle qu'elle a elle-même créé en cherchant à empêcher votre retour. Envoyez votre ange et faites que notre nuit devienne lumineuse comme le jour. Combien de cœurs, ô Seigneur, vous attend. Venez, Seigneur Jésus. Il y a tant de signes que votre retour ah, loin. Hein? Quand on est tout près de la mort, on voit les choses d'une autre façon que quand on fait des études de théologie. Même quand on n'est pas. Et il disait encore, le retour de Christ ne se fera pas au terme de l'histoire, mais au cours de l'histoire. Quand le monde sera converti, alors le Seigneur pourra venir. Jamais. Ça ne sera jamais. Quand le monde va convertir, il y aura toujours des enfants qui doivent naître de la chair, qui doivent se convertir. C'est lui qui ouvrira l'ère du règne terrestre du Christ, lequel précédera la fin du monde. Le règne, il doit y avoir un règne. Il doit régner. Il faut qu'il règne.
Maintenant, prenez notre Jean 23.
Le retour de Dieu.
Il en était tellement conscient que sa prière
s'est renouvelée à notre époque comme une nouvelle Pentecôte. C'est ça qui l'amène à faire Vatican II, qui a ouvert bien des portes.
Et Paul dit,
en 1965, que déclare-t-il? L'Église compte les heures du temps qui compte, avec une entière prophétie. Elle est tendue vers le retour de son Seigneur. C'est vrai? Vous êtes tendue vers le retour de votre Seigneur?
Moi, je n'ai pas à juger si c'est sentimenté exact, mais il le dit, il l'écrit.
Et le 11 septembre 1968, il ajoute, tel était le but du Concile, réveiller, rajeunir l'Église et en même temps accélérer la marche vers la rencontre finale ouverte avec le Christ à son retour. Je dis cela parce qu'on vous dit toujours, oh ça c'est des idées de sectaires. C'est pas vrai. Il y a la foi aussi à son retour, ailleurs chez nous. Et il ajoutait le 13 mai 1976, le pèlerinage de l'Église à travers les siècles aboutit à la rencontre ultime, glorieuse et éternelle avec Jésus-Christ. L'Église a le sentiment que cet aboutissement est proche, presque imminent.
Ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est Paul.
Presque imminent. C'est pourquoi dans son pèlerinage tourmenté, elle dit du fond du cœur, oui,
bien, Seigneur, vous direz, mais moi j'avais pas des prières, c'est pas le fait, la fête, moi j'avais. Vous êtes de ces gens-là?
Au lieu de vous réjouir de ce que Dieu, jusqu'au dernier moment, peut parler à des âmes, c'est pas à nous de juger la place qu'ils occupent, c'est à nous de nous juger nous-mêmes et de nous demander ce soir, avant de nous endormir, est-ce que ce serait heureux?